Bonjour à toutes et tous, vous écoutez la table ronde de Vive le cinéma sur Aligre FM 93.1. Toujours en compagnie, comme chaque mois, de Pierre Charpillos, Benoît Basirico, Bernard Pagnon au micro. Et pour cette heure de table ronde, d'échange sur quelques films sortis en avril, on va parler de Civil War d'Alex Garland. On va parler de État limite de Nicolas Peduzzi, du Mal n'existe pas de Ryusuke Hamaguchi, de Borgo de Stéphane de Moustier et de La Roy de Sean Atkinson, ou de Drive Away Dolls d'ailleurs, le film d'Ethan Cohen.
Oui, c'est un film un peu en miroir. Donc,
oui, on pourra l'évoquer, exactement. Ça.
Voilà, je précise que cette émission est réalisée par Dariano Pitana et Alexandre Welbrook. Alors Benoît, je ne sais pas si c'est toi qui lance un peu les...
Oui, alors chaque film sera illustré en musique comme chaque semaine. Je voulais juste, avant de commencer, peut-être rendre hommage à Laurent Canté. On a appris sa disparition hier ou avant-hier. Il y a quelques jours, sa disparition. Et donc, voilà, on peut lui dédier cette émission. Il avait reçu la Palme d'Or, notamment avec Entre les Murs. C'est avec ces notes de guitare que est illustré ce film Civil War, musique composée par Jeff Barrow et Ben Salisbury. À travers ces guitares, on a à la fois le folk, l'americana, le lien avec l'Amérique, l'histoire de l'Amérique, et en même temps cette couleur plus mélancolique, plus crépusculaire même, qui annonce un peu la fin d'un monde. Civil War.
C'est Civil War, une course effrénée à travers une Amérique fracturée qui, dans un futur proche, et plus que jamais sur le fil du rasoir. Voilà ce synopsis assez laconique quand même pour ce film qui n'annonce pas forcément tout à fait ce à quoi le film ressemble. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé de ce nouveau film d'Alex Garland, budget important, disons. Bernard, Benoît.
Moi, je suis assez mitigé. Alors, si quelqu'un veut le défendre, peut-être, pour commencer.
Non, justement.
Moi, je veux bien le défendre, mais je veux bien terminer par le défendre, comme ça.
Bah, on fera ça. Non, on va faire ça.
Donc, alors déjà, ce qui fonctionne pour moi et ce qui est peut-être l'intérêt d'y aller, c'est le film d'action. Il nous plonge donc au cœur d'un chaos de la guerre civile américaine. Donc, il est efficace, on va dire, sur le principe du film d'action. Un film d'action très mise en scène, très à la mode, hein, puisque le film d'action, aujourd'hui, on le fait dans un style très réaliste, très viscéral. On se rappelle de Des Mineurs de Catherine Bigelow qui avait épousé un peu la même esthétique réaliste au cœur de la guerre. Donc un cinéma d'immersion qui peut même rappeler aussi l'esthétique des jeux vidéo. Donc on a un peu cette esthétique jeux vidéo, cette esthétique où on a l'impression de participer auprès des photographes à cette guerre. Autre raison d'y aller, c'est la sororité, les deux femmes, où il y a cette jolie manière qu'a Kristen Dunst, son personnage d'une vétéran de la photographie de guerre, qui va parfois laisser un scoop à la novice qui débarque. Donc il y a cette manière comme ça de faire circuler la lumière d'une photographe à une autre. Autre peut-être raison d'y aller, c'est le road movie, la manière de traverser un pays en ruine. Ensuite, autre raison d'y aller, c'est peut-être le point de vue des journalistes. Donc cette manière aussi d'être auprès des journalistes, de se poser des questions sur qu'est-ce qu'il faut prendre ou pas en photo, même si le film ne pose pas vraiment la question. Il y a un moment donné, par exemple, une scène où il y a un cadavre ensanglanté, et à un moment donné, l'experte ne veut pas prendre la photo, et l'autre, la novice, prend la photo. Et donc on se dit, est-ce que l'experte ne prend pas la photo pour une question morale ou au contraire pour laisser ce scoop à la jeune photographe, et ce n'est jamais résolu. Donc à nous spectateurs peut-être d'imaginer quel est l'enjeu derrière cette question là mais voilà, c'est pas résolu. Donc les réserves que j'ai sur le film, c'est justement que c'est un film un peu comme une bulle, déconnecté complètement de la réalité du pays. Ils n'ont aucun smartphone, donc on se dit à quelle époque est situé le pays. Aucun réseau social. Le film donc ne dit rien de l'Amérique d'aujourd'hui. Il y a un peu un postiche, en fait, où on imagine qu'il y a un Trump dans le film. Mais en fait, c'est vraiment plus de l'ordre de la caricature plutôt que de l'ordre du discours vraiment politique sur le film. Donc, en fait, on peut plus penser à un film de zombies Et rappelons qu'Alex Garland a scénarisé 28 jours plus tard de Danny Boyle, un film de zombies où les photographes seraient des zombies ou des survivants en quelque sorte. Mais voilà, donc moi je pensais que j'allais voir un film politique et au final je n'ai vu qu'un film d'action.
Il avait écrit aussi La plage de Danny Boyle.
Oui, de triste mémoire.
Très grand film. Non, je plaisante. Non, dans toute dystopie, je crois qu'il y a des choses intéressantes à analyser. Donc ici, notamment, évidemment, la faiblesse des États-Unis, le fait que le mal vient de l'intérieur. Et je crois que c'était intéressant de prendre le point de vue des journalistes, de voir comment ils réagissent face à cette situation qui concerne leur propre pays. Mais je trouve quand même que ça reste un film, pour moi, plutôt simpliste et pas très subtil, où les personnages manquent d'épaisseur et... Où sont presque archétypaux, et ce que tu disais sur les deux personnages féminins notamment, au début je trouvais intéressant, effectivement il y a cette sororité qui débouche presque sur un truc un peu à la All About Eve, dans le sens où l'une va remplacer l'autre, enfin il y a quelque chose comme ça qui à la limite peut être intéressant, mais qui reste quand même assez... Assez simpliste au bout du compte. Et je trouve le film, bizarrement, il est vendu comme un blockbuster, mais extrêmement peu spectaculaire. Et à part une scène, des scènes très importantes autour notamment d'un charnier, la rencontre avec des suprémacistes blancs, qui est une scène extrêmement tendue, évidemment la fin, le dernier tiers du film, je trouve le reste est assez... un peu trop fallot pour moi. Et je préfère nettement, en fait, un film... qu'on a peut-être oublié aujourd'hui, mais qui n'est pas très connu, qui s'appelle Second Civil War de Joe Dante.
Ah, magnifique.
Qui était un film de, je crois, 1997.
Pour la télévision.
Pour la télévision au départ, mais voilà, qui depuis, je crois, qui a été diffusé en salle, et puis qui est aussi sorti en Blu-ray, et qui est un film passionnant et très annonciateur de plein de choses, en tout cas, à l'époque, très, très avant-gardiste, finalement, puisque ça a évoqué... notamment la situation des migrants aux États-Unis, un président qui était complètement manipulé. Il y avait aussi une parodie de chaîne info qui était assez pertinente. Et puis, ce qui n'est pas arrivé, heureusement, c'est une guerre nucléaire. Dans ce film-là, c'était entre l'Inde et le Pakistan. Mais voilà, en tout cas, le film était vraiment passionnant et je ne retrouve pas toutes ces qualités-là dans Civil War d'Alex Garland. Mais Pierre va le défendre, ce film.
Mais oui, parce que, chers amis, vous prenez le film pour ce qu'il n'est pas. Déjà, c'est pas du tout un film, je pense, sur le journalisme, même s'il a des personnages principaux qui sont des journalistes. Je pense que ce qu'il raconte sur le journalisme, c'est en gros des banalités qu'on connaît tous un peu par cœur sur la place ambiguë du reporter de guerre entre le besoin de rapporter des images et sa participation, voire son implication dans des massacres, etc. Bon, ça, on connaît ça un peu par cœur depuis, je pense, au moins une trentaine d'années. Et surtout, effectivement, comme tu l'as souligné, Benoît, ça n'est pas du tout d'actualité aujourd'hui à l'heure des réseaux sociaux et où on sait que l'actualité est traitée de manière tout à fait différente avec Instagram, avec TikTok, avec les lives, etc. Mais peu importe. Je pense que peut-être que c'est le sujet d'Alex Garland. En tout cas, moi, c'est pas ce que je suis allé chercher dans le film. Et n'y cherchant pas ça, je l'ai pas trouvé. Donc, c'était très bien. Et enfin, surtout, c'est pas du tout un film politique. Parce que sur la politique, il raconte rien. Effectivement, le personnage peut évoquer Donald Trump parce qu'on a eu Donald Trump. Mais sans chercher à en faire une critique ou une espèce de film à la, effectivement, Joe Dante, qui était vraiment ce film très satirique sur les États-Unis. Là, ça l'est pas du tout. Il n'y a pas une métaphore de la société contemporaine à y chercher dans ce film. C'est un pur blockbuster. Alors, c'est sûr qu'avec Alex Garland, on a cru à un moment donné que c'était un réalisateur qui cherchait à nous faire passer des messages. Il l'a fait de manière très, très, très lourdingue avec un film qui s'appelait Men, qui était très désagréable et qui enfonçait beaucoup de portes ouvertes. Alors, peut-être qu'on a cherché à voir ces messages dans ce film, peut-être lui-même a cherché à nous en transmettre, mais c'est pas ce qu'il faut chercher dans le film, à mon avis. C'est pas ce qu'il faut chercher chez Alex Garland de manière générale, que ce soit dans son travail de scénariste ou de réalisateur, mais il faut y chercher et on y trouve, dans ce cas-là, le véritable blockbuster efficace du moment, à une époque où les studios nous proposent des blockbusters tous les plus ennuyeux et les uns que les autres. Je pense au dernier Marvel, je pense au dernier film de Warner, DC, qui sont encore pires. Je pense à, par exemple, Ghostbusters, sorti récemment. Je veux dire, c'est typiquement des films dans lesquels on s'ennuie. C'est quand même le principal problème d'un blockbuster. Un blockbuster, le principe, c'est pas tant qu'il y ait des scènes spectaculaires d'un point de vue pyrotechnique ou autre chose. C'est des films dans lesquels on ne s'ennuie pas, dans lesquels le scénario est au cordeau, dans lesquels l'histoire nous propose un univers dans lequel on peut se projeter et on peut partir dans un pur imaginaire de cinéma. et dans lequel donc, on ne s'ennuie pas, je pense que c'est le cas de Civil War, et surtout, effectivement, il y a une scène d'action, qui est quand même une scène assez longue, la scène d'assaut de la Maison Blanche dans le film, qui est certainement une des scènes d'action les plus efficaces, les mieux montées, les mieux mises en scène qu'on a vues dans le cinéma américain contemporain. Donc, aller chercher un cinéma d'auteur, non, pas du tout intéressant, et on pourrait faire beaucoup, beaucoup mieux, mais un vrai blockbuster, certes proposé par un studio soi-disant lié à des films dits indépendants, dits d'auteurs, qui s'appelle A24, mais bon, qui a quand même un budget très très important, sorti dans un parc de salles très très important, voire même en IMAX, donc ça dit tout du potentiel blockbuster du film. Donc pour ça, et si on y cherche ça, je le conseille fortement.
D'accord, très bien.
Voilà.
Civil War, donc.
Allez-y.
C'est quand même ennuyeux. Hein.
Ouais, moi je me suis ennuyé.
Non, parce que effectivement, ce truc du road trip qui est un peu un prétexte de film assez classique, mais dans lequel, vu qu'on suit une progression avec différentes étapes, avec des déviations, etc., si on aime ce genre-là, on est pris un peu dans cette histoire, on est assez surpris. Il faut dire que les interprètes sont quand même super bien, donc pour moi, ça fonctionne.
Et je trouve qu'il y a un peu dans le récit, disons que les enjeux se répètent à l'infini, quoi. C'est-à-dire qu'on se déplace dans la géographie du pays, mais à chaque fois, on se retrouve avec des mêmes rencontres, des mêmes affrontements, et donc ça tourne un peu en boucle. Enfin, c'est le sentiment que moi j'ai eu dans ce film-là, en termes de structure du film. Il n'y a pas de nouvel élément, si ce n'est une progression dans le côté croissant de la tension, avec ce charnier qui est une scène un peu, je trouve, entre le grotesque et l'horreur, mais... donc voilà, ce côté un peu répétitif de la structure.
Je suis pas d'accord, il y a le passage où ils arrivent dans une ville qui semble à l'abri de la guerre de manière très surprenante. Il y a effectivement cette rencontre avec ce personnage de psychopathe joué à merveille comme il le fait toujours par Jesse Plemons. Et puis il y a le passage où on arrive au camp de base de l'armée sécessionniste, puis l'assaut, etc. Enfin, je vais pas décrire le film dans sa globalité, mais il me semble qu'on a des types de situations quand même relativement différentes plus on avance dans le film. Et c'est un film aussi qui est pas trop long finalement, c'est-à-dire moins de 2 heures, c'est quand même assez appréciable et ça se tient dans la durée à mon sens.
Cette musique techno signée par Gaël Rocco Tondrab et pour le film « Est à limite », documentaire dans le milieu de l'hôpital. Et c'est assez audacieux d'avoir mis cette musique techno dans un film du quotidien de l'hôpital auprès d'un médecin et des patients. Et on a entendu d'ailleurs le son du film également avec cette musique. Assez audacieux puisque habituellement dans ce genre de film, que ce soit Nicolas Philibert ou Wiseman ou autre, il y a une absence musicale. Et donc là, c'est déjà une présence de la fiction finalement par la musique qui est assez intéressante.
Hôpital Beaujon, Clichy, au mépris des impératifs de rendement et du manque de moyens qui rongent l'hôpital public, Jamal Abdelkader, seul psychiatre de l'établissement, s'efforce de rendre ses patients l'humanité qu'on leur refuse. Mais comment bien soigner dans une institution malade? C'est la question essentielle au cœur d'État à limite, ce documentaire. Donc, qu'en avez-vous pensé, Bernard Benoît?
Alors, il faut rappeler que le film était passé sur Arte il y a quelques mois, je crois, c'est là où je l'ai vu, et maintenant il sort en salle.
Oui, on est
donc
dans ce cas de situation effectivement assez particulière où le film est disponible pendant assez longtemps sur une chaîne de télévision Arte. Et
alors c'est le dernier jour, j'ai regardé où il est en VOD, 29 avril, dernier jour.
D'accord, et donc après, forcément, parce qu'il va être, il va sortir en salle le 1er mai, voilà. Ben, c'est un film assez passionnant. Hein. C'est, Nicolas Peduzzi avait réalisé notamment Ghost Song, qui était déjà des portraits de personnages à Houston alors qu'un ouragan menaçait la ville. Et là, quelque part, il reprend aussi ce même dispositif, puisque il y a le portrait d'un homme, qui est donc Jamal Abdelkader, qui est ce psychiatre qu'on va suivre pendant tout le film. Et voilà, il y a une menace aussi qui n'est pas un ouragan, mais quelque part, c'est le délabrement, les dysfonctionnements de l'hôpital public, avec tous ces problèmes de santé publique, problèmes d'argent, qui sont maintenant très, très identifiés. Et il y a une phrase comme ça qui m'a marqué au début. On ne peut pas quantifier ce que je fais, mon travail, c'est de construire un lien. Et tout est dans cette phrase, voilà, parce que c'est vraiment l'idée de ce que le film raconte, c'est le lien qui se construit avec les patients et le temps qu'il prend à construire ce lien. D'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'il y a deux temporalités dans le film. Il y a la temporalité de cette écoute, voilà, il y a beaucoup d'écoute des patients de la part de ce psychiatre. Et puis, je trouve que c'est un film extrêmement dynamique et la mise en scène adopte ce tempo-là parce que ce personnage-là, il est extrêmement mobile en fait. On le voit aussi courir d'un endroit à l'autre. Il y a cette mobilité aussi qui me frappait énormément avec ce montage du coup très très cut et en même temps cette mélancolie qui l'envahit et qui même le fragilise physiquement. Et voilà, donc je trouve que c'est un film assez, assez passionnant. Il faudrait dire aussi formellement qu'il y a des photos noir et blanc aussi qu'on voit, qui sont signées Pénélope Chauvelot. Et voilà. Benoît ou
oui,
Pierre,
film passionnant, en effet, je confirme. Il y a deux films en un, finalement. Donc, il y a le film documentaire attendu, au cœur de la relation entre les patients et les médecins. Film de très près, donc il y a cette dimension intime, où on est vraiment dans la réalité d'un hôpital, dans les préoccupations. Et il y a un deuxième film, plus sensoriel, où vraiment l'hôpital est un lieu de tension, en constant état d'urgence, avec une sorte de chaos, de la détresse permanente. Et ce médecin, tout le temps en déplacement, tout le temps en train de courir dans les couloirs. Et ce deuxième film me passionne parce qu'il ne vient pas concurrencer le premier, il vient au contraire élargir le discours sur le chaos d'un pays entier, sur un trauma global de toute une société. Donc c'est vraiment le film, je trouve, sur la crise de l'hôpital.
Oui, tout à fait d'accord avec vous deux. Effectivement, c'est déjà un grand film de mise en scène. Là où dans le cinéma direct, on nous avait habitués à des règles très strictes dans la manière de représenter le réel. Là, effectivement, ces règles ne sont pas forcément respectées. On a de la musique très très présente, très prégnante. On a des effets d'image avec ces photographies noir et blanc qui apparaissent. Mais tout ça va au profit du réel et accompagne le réel et accompagne le récit. Cette musique, comme tu disais aussi Bernard et Benoît, ça joue aussi de ce rythme presque effréné dans lequel est condamné à vivre ce médecin tout seul, là où il en faudrait bien plus autour de lui. Donc ça sert complètement le récit. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de films en ce moment sur le monde de l'hôpital, et à raison, parce que le monde de l'hôpital vit très mal, et sur la psychiatrie en particulier. On peut citer effectivement Sur la Dame, Nicolas Philibert, ou Averroès et Rosa Parks plus récemment, ou même le troisième volet là, qui est sorti il n'y a pas longtemps, cette trilogie sur la psychiatrie. Mais ce qui me semble beaucoup plus intéressant que dans les films de Nicolas Philibert, c'est que finalement Nicolas Philibert fait des films très très longs, mais dans lequel il ne s'intéresse qu'à l'anecdotique, c'est-à-dire à ces personnages de malades qui semblent effectivement un peu surprenants, un peu touchants par leur maladie, mais ne dit rien véritablement sur le global de la gestion de problématiques psychiatriques. Et ça, il arrive très bien à le faire, Nicolas Peluzzi, grâce au choix d'un personnage très très fort et d'un personnage très très riche qui dit les choses, qui n'a pas peur de dire des mots parfois durs sur l'hôpital ou même sur ses collègues ou ce genre de choses, mais parce qu'il est là pour les dire, il les enrobe pas et ça fait du bien, il a un vrai discours. Ce qui n'est pas le cas non plus, par exemple, de Madame Hoffman, du film de Sébastien Lifshitz, aussi sur l'hôpital. Où je pense que là, Sébastien Lifshitz, quand il a rencontré Madame Hoffman, donc cette infirmière qui part en retraite et qui laisse derrière elle un espèce de chaos parce que malheureusement, il n'y a personne véritablement pour la remplacer. Quand il l'a rencontrée, il s'est dit « Quel personnage extraordinaire, elle est très drôle, elle parle beaucoup, etc. Elle est très vivante, super personnage de cinéma. » Sauf que concrètement, oui, elle est tout ça, mais dans son film, malheureusement, elle ne dit pas grand-chose. Je veux dire, concrètement, d'un point de vue intellectuel, on n'apprend pas grand-chose sur l'hôpital, on a assez peu d'éléments au-delà de choses, du pur registre émotionnel. Là, on les a dans État Limite, mais on a aussi le discours politique, c'est un vrai film politique, le discours intellectuel qui est, me semble-t-il, très absent de ces autres films. Donc vraiment, le grand film sur l'hôpital contemporain, c'est État Limite. Nicolas Peluzzi.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
mal n'existe pas. Cette musique est signée Eiko Ishibashi. Et cas exceptionnel, le film, à l'origine, c'était de la musique. C'est-à-dire que cette compositrice japonaise, Eiko Ishibashi, qui avait déjà d'ailleurs écrit la musique du précédent film, enfin un précédent film du réalisateur Drive My Car, en fait, a demandé au cinéaste de faire des images pour des concerts, un concert, pour accompagner un concert. Donc ça devait être au départ des images comme des installations visuelles pour le live de cette compositrice. Et puis ensuite, au fur et à mesure de faire des images, le cinéaste s'est rendu compte qu'il pouvait greffer un récit, une fiction à ces images. Et donc c'est intéressant parce que la musique qui était au départ faite pour le concert est devenue la musique d'un film de fiction, et un film de fiction qui a du coup des personnages et une histoire.
Et oui, c'est Takumi et sa fille Anna qui vivent dans le village de Mizubiki, près de Tokyo. Comme leurs aînés avant eux, ils mènent une vie modeste, en harmonie avec leur environnement. Le projet de construction d'un camping glamour, un glamping, comme on le mentionne dans le film, dans le parc naturel voisin, offrant aux citadins une échappatoire tout confort vers la nature, va mettre en danger l'équilibre écologique du site et affecter profondément la vie de Takumi et des villageois. Alors, Bernard, Benoît, j'ai l'impression de dire ça à la fin de chaque synopsis, mais...
Alors on change la circulation, allez. Donc, moi j'aime beaucoup beaucoup ce film, un film tout en rupture de ton, mariant des univers différents. Donc il y a à la fois un premier film qui est une abstraction plastique, hein, donc une beauté picturale, la forêt, les arbres, des plongées, des contre-plongées. Et donc là on voit le côté installation du projet original avec la musique qui est vraiment des morceaux presque préexistants, hein, qui ont leur pleine autonomie. Et puis il y a une dimension un peu godardienne où cette musique qui est presque indépendante au film est manipulée par le cinéaste avec des coupures nettes en plein milieu d'un plan. Donc il y a cette manière comme ça très arbitraire de couper la musique, et finalement cette coupure nette de la musique comme pour arrêter cette poésie pour que ensuite arrive, survienne la violence faite à la nature. Et donc c'est un film écologique sur l'arrivée de deux représentants qui viennent présenter leur projet de camping qui va donc bouleverser le cours naturel des choses dans cette nature. Et donc il y a cette violence écocide qui est à l'œuvre, et je trouve qu'il le fait, il le représente de manière poétique, où cette nature méditative, cette ambiance transcendantale vient se confronter à ces deux représentants qui ont comme ça le côté un peu primaire, un discours tout fait, et donc il y a un peu en quelque sorte la confrontation de deux mondes qui est mise à l'œuvre, et je trouve que formellement le réalisateur le traduit très bien.
Oui, je trouve qu'il arrive à faire quelque chose de formidable à partir de, je dirais, une hétérogénéité formelle, dans le sens où le film commence par nous mettre dans un état un peu rêveur, avec ce long plan, cette longue contre-plongée sur les arbres, on est dans la forêt, on est dans un tempo justement assez lent avec ce personnage de Matoufer, de bûcheron, enfin qui est là avec sa fille dans la forêt. Et puis après, c'est vrai que le film bascule dans le débat politique, dans quelque chose qu'on a connu très souvent avec Amaguchi, qui est la mise en scène de la parole, la confrontation entre la ville et la campagne. Et puis on aboutit à une fin qui est extrêmement mystérieuse et qui, voilà, et qui fait énormément parler une fois qu'on a vu le film. Ce qui me plaît aussi, c'est cette mise en scène d'une menace imminente. On a vraiment l'impression pendant tout le film que quelque chose va se passer, on ne sait pas quoi, et on saura à la fin. Et on a ce sentiment-là, en tout cas, pendant tout le film. Et puis, il y a aussi cette idée d'éviter les pièges, d'éviter les clichés en permanence. C'est-à-dire que dans cette confrontation entre la campagne, la forêt, la nature et la ville, eh ben, y a sans arrêt une manière de déjouer ce qui pourrait faire cliché. C'est-à-dire que, par exemple, la nature, elle n'est pas du tout filmée de manière romantique, de manière... c'est pas du tout un paradis.
Oui, parfois, c'est presque un conte d'horreur.
Complètement, et voilà. Et c'est pas du tout une enjolivée. Et en même temps, voilà, tout ce qui concerne ce projet, effectivement, qui est de base menaçant. Mais il est aussi... on s'intéresse aussi à ces personnages qui le portent, qui sont donc ça crée une forme d'ambiguïté de s'intéresser à ces deux personnages qui présentent ce projet, qui sont pas si horribles que ça. Enfin, en tout cas, on s'intéresse beaucoup à eux, on prend le temps de s'intéresser à eux dans le scénario et aussi dans la mise en scène, dans la façon dont ils sont montrés. Et ça, c'est assez passionnant. Enfin, voilà, cette idée de prendre son temps et que la mise en scène, en tout cas, c'est vraiment un film de mise en scène, comme souvent avec Hamaguchi, et cette idée que la mise en scène éradique toute forme de cliché et préserve l'ambiguïté du film.
C'est vrai que ce temps long est très intéressant. Tu évoquais le fait qu'il y avait cette côté horreur dans la nature, et inversement, dans ces représentants qui viennent détruire cette nature, il y a même des scènes de comédie. Des moments assez où il essaie de couper la bûche, il n'y arrive pas. Enfin, il y a quand même des scènes de comédie. Pierre, qu'en as-tu pensé ?
Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Ryosuke Hamaguchi au moment de Drive My Car, qui avait eu un succès assez étonnant en France, prix de la mise en scène à Cannes. Il semble que ce film démarre mieux. Alors, je ne sais pas où sont les chiffres aujourd'hui, mais en tout cas, sa première semaine était encore meilleure que Drive My Car, donc ce qui fait que le cinéma japonais se porte quand même bien en France, ce qui est plutôt bon signe. Moi, je n'étais pas un grand fan de Drive My Car. Je trouvais le film très didactique et très illustratif aussi. Et surtout, il me semble que ce qu'il racontait sur le théâtre était assez daté. Et là, j'ai vu le film complètement inverse à Drive My Car, me semble-t-il. Même si, effectivement, on retrouve des choses sur, comme tu disais, le dialogue et sur la mise en scène. Mais c'est beaucoup plus fin. La mise en scène est beaucoup plus riche. Et les personnages sont surtout beaucoup, beaucoup plus intéressants. C'est effectivement, là, on n'est pas du tout dans de l'explicatif. Et on a quelque chose sur l'écologie qui est très, très intéressant. Et ça, c'est ce que vous disiez tous les deux. C'est qu'on n'est pas dans cette opposition entre les méchants citadins qui veulent détruire la nature dans laquelle vivent depuis des millénaires des gens qui n'ont rien demandé. Non, ces gens vivent dans la campagne, mais on l'apprend, ils vivent depuis peu, en fait. Ça fait quelques générations qui sont là. Donc, ils n'ont pas cette espèce d'attachement immémorial à la nature, comme on l'entend souvent dans les discours écologiques qui semble mêler une espèce de sacré à la nature ou de religieux. Là, il y a pas du tout ça. C'est très concret, au contraire, quoi. C'est comment ça nous impacte concrètement, le fait qu'il y a l'arrivée de ce camping, quels sont les problèmes. Et on essaye de trouver des solutions. On n'est pas dans le conflit, véritablement. Tant les habitants essayent de comprendre pourquoi il y a ce besoin de camping et arrivent à comprendre l'intérêt de ce camping, mais soulignent les difficultés. Et les représentants aussi, c'est ça qui est très intéressant, écoutent les difficultés, sont prêts à entendre et essayent de faire remonter les informations et essayent de créer de la discussion. Donc finalement, il y a quelque chose d'assez optimiste et surtout quelque chose qui est face à la réalité très concrète, très terre-à-terre, des enjeux écologiques, ce qui fait que c'est assez rare, il me semble, dans la fiction en particulier, de traiter l'écologie de cette manière-là. Donc c'est un grand film écologiste à conseiller à tous les gens qui s'intéressent au sujet d'écologie. Et en même temps, ça s'inscrit dans un film de mise en scène qui est à la lisière, parfois, du fantastique, du fantasmagorique, de l'onirique, etc. Mais les deux se mélangent très très bien, et c'est ça qui est très fort. C'est qu'on a quelque chose de très concret, en même temps quelque chose de très poétique, et l'un ne vient pas remplacer l'autre. Donc oui, effectivement, un très grand film.
Et ouais. C'est un film, effectivement, pour reprendre, j'ai pas les chiffres exacts en tête, mais c'est un film qui trouve son public dans un contexte quand même de marché du film en salle très bas. Il y a pas beaucoup de films qui le trouvent, leur public, et c'est le cas de ce film.
J'ai l'impression que les films aujourd'hui qui trouvent leur public sont des films très audacieux, on voit Anatomie d'une chute, presque 2 millions, Le règne animal, et à côté, le dernier Marvel n'a pas marché. Enfin, il y a presque une inversion.
Mais Civil War marche bien par rapport aux autres blockbusters, donc comme quoi.
Maintenant, c'est notre moment intermède avec quelques recommandations.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Cette musique n'est pas originale, n'a pas été composée pour ce film. C'est Love Match de Roger Webb pour le film Riddle of Fire de Weston Razzouli, qui est donc ma recommandation pour cet intermède. Ce film américain de Weston Razzouli qui relate le parcours d'un trio d'enfants qui part à la recherche d'un œuf pour faire un gâteau. C'est une aventure à la frontière du conte merveilleux, du peuplé de fées, d'elfes, de brigands. Donc on est vraiment à hauteur d'enfant. Éloge de l'aventure, éloge du jeu, mêlant aventure et humour, avec un ton tout le temps distancié et jubilatoire. Et même parfois, les enfants caricaturent le monde des adultes, donc il y a une espèce de reproduction de la société à leur niveau. C'est aussi l'éloge de l'égarement, donc ils se perdent, ils se retrouvent. Donc c'est vraiment un très très beau film, c'est un peu presque la métaphore du cinéma, où on aime aussi trouver des choses qu'on n'a pas forcément cherchées, donc être tout le temps surpris. Un film entre Tom Sawyer et les Goonies. Voilà, j'aime beaucoup aimer ce film, qui était d'ailleurs présenté à la quinzaine des réalisateurs à Cannes l'année dernière.
Quinzaine des cinéastes.
Quinzaine des cinéastes, on dit maintenant, c'est vrai, exactement. Riddle of Fire, donc. Quelles sont les autres recommandations, mes chers amis ?
Alors moi, c'est pas tout à fait une recommandation, mais c'était surtout pour vous parler d'un festival qui s'est tenu il y a un mois, le Festival international du film de femmes, qui était à Créteil. J'en parle parce que Aligre FM était partenaire, et en collaboration avec le syndicat français de la critique de cinéma, il y avait un jury composé des journalistes Jean-Philippe Guérand du film français, Ariane Allard de Positif, et de Cosette Yael Hirsch de Cult News, qui ont récompensé leur meilleur film donc de cette compétition de réalisatrices. Alors on aurait dû sur Aligre FM vous diffuser l'intégralité du débat et des discussions qui ont motivé ce choix de la délibération, mais il y a eu un problème technique au moment de l'enregistrement, voilà, pour ne rien ne vous cacher comment ça se passe. Voilà, nous n'avons pas pu diffuser ça, mais alors j'en profite quand même pour vous dire un mot sur le film qui a reçu le prix, qui a été récompensé, c'est Kalak d'Isabella Eklöf, qui a donc reçu ce prix. C'est un film danois qui se passe au Groenland. Alors déjà, rien que ça intrigue. Des films de fiction qui se passent au Groenland, il n'y en a pas tellement que ça. Alors, je cite ici les mots que m'a transmis le jury. Il s'agit du second long-métrage de la réalisatrice de Holiday, 2018, qui les avait aussi impressionnés par son scénario de Borders. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film d'Ali Abbasi. C'était donc la réalisatrice qui a signé le scénario. Ce film qui avait remporté le prix Un certain regard au Festival de Cannes en 2018. Alors, Kalak, de quoi ça parle? Débutant par une scène insupportable d'abus sexuels, le film raconte la longue fuite en avant de la victime devenue un homme. Infirmier, marié, père de deux enfants, il essaye d'oublier ce qu'il ne peut ou ne veut pas raconter en partant vers le Groenland. Avec un traitement toujours subtil et un rythme aussi lancinant que la noyade psychologique qui submerge son anti-héros, Kalak montre comment cet anti-héros reproduit une domination masculine. C'est assez intéressant, c'est un personnage qui n'est pas positif, alors qu'on a effectivement un personnage qui souffre au départ, mais on n'en fait pas un personnage de victime, on n'en fait pas non plus un personnage qui se reconstruit, on en fait un personnage assez négatif, donc quelque chose d'assez intéressant effectivement là-dedans. Et donc le film travaille évidemment notre sensation de malaise avec une précision vertigineuse. Isabella Eklöf, c'est donc une réalisatrice à suivre, et nous, bah, on a très hâte de découvrir ce film qui n'est pas encore daté en salle, donc ouais, ça
le
sera
titre.
Prochainement, ça s'appelle Kalak, okay. Et elle s'appelle donc Isabella Eklöf.
Super.
Et t'as pas de recommandation autre?
J'ai pas de recommandation autre, est-ce que j'ai le temps de dire une oui. ou deux recommandations oui. Écoute, tu me prends un peu de cours, mais j'y réfléchis et je te laisse dire la tienne et je t'en donnerai une après.
Très bien. Moi, effectivement, que tu l'as mentionné tout à l'heure, parce qu'on en a extrait un de cette actualité. Hein, c'est un peu le mois du film documentaire, parce qu'il y a beaucoup de films documentaires qui sortent en salle. Nous, on a parlé d'État limite et puis tu en as cité d'autres, Pierre, tout à l'heure. Et moi, j'avais envie de parler de L'homme aux mille visages de Sonia Kronlund, qui est sorti en salle. Je crois, maintenant, il y a une dizaine de jours. Et c'est un film qui marche plutôt bien en salle, d'ailleurs. C'est un film qui est tiré, on va dire, d'une émission de Sonia Kronlund, qui s'appelle Les Pieds sur Terre, sur France Culture. Et dans cette émission, elle avait raconté, il y a quelques années, je crois en 2017, l'histoire de cet homme qui séduisait plusieurs femmes dans plusieurs pays presque simultanément et qui avait donc qui connaissait donc plusieurs vies totalement parallèles et totalement différentes et donc évidemment s'intéresser à c'était au départ une de ces femmes et puis après un livre et puis maintenant ce film permettent de s'intéresser à plusieurs de ces femmes qui ont été abusé par cet homme qui leur a fait croire énormément de choses fausses et donc ce film est assez passionnant parce qu'il mélange des témoignages directs de ces femmes et en même temps celles qui n'ont pas voulu témoigner sont incarnées par des actrices et on voit pas forcément la différence d'ailleurs entre les deux et puis voilà, toute la question du film c'est est-ce qu'on va avoir ce fameux personnage, est-ce qu'on va aller à sa rencontre. Le film est construit vraiment comme un suspense, d'abord est-ce qu'on va voir son visage et puis est-ce qu'on va le voir lui, est-ce qu'on va le connaître. Et voilà, le film est assez, assez passionnant parce que c'est une réflexion un peu vertigineuse sur la fiction aussi. Qu'est-ce qu'on se raconte quand on se rencontre? Est-ce qu'on se connaît vraiment l'un l'autre? Et voilà, et ce personnage totalement fascinant qui s'est construit une vie aussi à partir des films, parce que c'est un type dont on ne sait pas vraiment l'origine, est-ce qu'il est brésilien, est-ce qu'il est argentin, mais qui s'est construit une identité à partir des films qu'il aimait beaucoup, et il essaie de vivre lui-même dans un film. Voilà.
Oui, avec une super scène de fin, d'ailleurs.
Oui.
Très, très... alors, je ne veux rien dire sans dévoiler, mais très jouissive, tout de même.
Absolument, une sorte de vengeance, petite vengeance, on va dire.
Ben, j'irai le voir.
Oui. Alors, si vous allez le voir, il faut... je vous conseille de ne pas forcément lire le livre qu'elle a écrit, parce que c'est exactement la même chose. Donc, voilà, c'est bon. Voilà, elle a trouvé un bon personnage, donc elle s'est dit, voilà, autant l'exploiter au maximum. D'autres l'ont fait avant elle, donc ce n'est pas très grave.
Mais alors que l'émission est un bon point de départ, par contre,
oui.
Parce que l'émission était vraiment la genèse, la racine de cette histoire.
Bon, alors une très vite recommandation, très rapide aussi, un documentaire pour rester dans la ligne. Et si vous avez un peu de temps, il y a un documentaire à voir, selon moi, en ce moment. Je pense que ça ne va pas rester très longtemps à l'affiche, malheureusement. C'est Occupied City de Steve McQueen, donc un film de 4 heures sur Amsterdam pendant l'occupation nazie. Vous savez que les Pays-Bas ont connu une occupation particulièrement difficile avec la famine, etc. Et Steve McQueen, qui est donc ce cinéaste qui vient de l'art contemporain et qui a fait beaucoup de films de fiction, y compris à Hollywood, comme 12 Years a Slave, par exemple, ou Les Veuves, plus récemment, là, s'intéresse à cette ville qui est sa ville d'adoption, où il a rencontré sa femme, qui est historienne, et qui écrit le texte qu'on entend dans ce film. C'est un texte qui fait état des lieux occupés à Amsterdam pendant l'occupation nazie. Tel bâtiment servait à telle ou telle chose, tel bâtiment servait à ça, etc. C'est des pures descriptions factuelles accompagnées de témoignages. C'est des informations purement factuelles. Et à l'image, on n'a aucune image d'archive, mais des images d'Amsterdam filmées aujourd'hui, de ces mêmes lieux filmés aujourd'hui. Certains sont devenus des lieux de mémoire, d'autres forcément, parce que tout ne peut pas être enfermé dans le passé, se sont transformés. Donc, quelle est la mémoire des lieux? Que devient les lieux, que garde-t-on de l'histoire? C'est un documentaire passionnant d'un grand cinéaste de la ville quand même. On dit souvent Michael Mann, grand cinéaste de la ville, etc. À mon sens, le grand cinéaste qui filme très très bien les villes, c'est Steve McQueen. Vous voyez les travelling en voiture dans Les Veuves ou différents plans de Londres dans Shame, par exemple, qui sont très très magnifiques et qui racontent aussi beaucoup de ce que fait la ville aux êtres humains. Et donc un film passionnant à plusieurs égards, sur lequel on pourrait certainement consacrer une émission. C'est Occupied City de Steve McQueen.
Et bien, avec toutes ces recommandations, vous n'allez pas vous ennuyer cette semaine. À l'instant, une musique du film Borgo de Stéphane de Moustier, une musique signée par Philippe Sard. Et oui, grand retour du réalisateur, riche d'une carrière de 54 ans depuis Les choses de la vie de Claude Sauté en 1970. Compositeur donc peut-être vivant aujourd'hui en France qui a la plus belle filmographie, mélangeant les diverses collaborations allant de Bertrand Tavernier à Jean-Jacques Hano avec L'Ours. Et donc ce réalisateur Claude Sauté, Les choses de la vie. Et puis Stéphane de Moustier, c'est La rencontre sur ce film policier carcéral. Alors la musique que l'on vient d'entendre, si elle vous dit déjà quelque chose, eh bien c'est parce que c'est une musique donc de Borgo, créditée comme telle dans le film, mais Philippe Sard, et il n'est pas le premier, donc je ne vais pas le blâmer, il recycle des anciennes musiques qu'il a pu déjà faire, et en fait ce morceau que vous venez d'entendre dans Borgo a en fait été composé initialement pour deux amis de Louis Garrel, et voilà, c'est pas le premier à le faire. Par exemple, le thème du Parrain est une musique de Nino Rota qu'il avait composée pour un film 20 ans plus tôt, voilà, tout le monde le fait, c'est pas très grave et c'est pour un film magnifique.
Oui, c'est Borgo avec Afsia Herzi, donc Mélissa, 32 ans, c'est Afsia Herzi, surveillante pénitentiaire expérimentée, s'installe en Corse avec ses deux jeunes enfants et son mari. l'occasion d'un nouveau départ. Elle intègre les équipes d'un centre pénitentiaire pas tout à fait comme les autres. Ici, on dit que ce sont les prisonniers qui surveillent les gardiens. L'intégration de Mélissa est facilitée par Saverio, un jeune détenu qui semble influent et qui la place sous sa protection. J'essaye d'en faire action corse, mais c'est pas tout à fait ça encore. Mais une fois libéré, Saverio reprend un contact avec Mélissa. Il a un service à lui demander. Une mécanique pernicieuse se met en marche. Alors, qu'est-ce qu'on a pensé de ce film? Bernard,
il y a de très bons acteurs corses d'ailleurs dans le film. Saverio est joué par Louis Mémy, qui est très très, très bien. Bah, Stéphane de Moustier était invité de cette émission, Nuit américaine. Donc évidemment, je vais en dire du bien de ce film, Borgo. On parle beaucoup des codes du film noir ou du film prison qui serait utilisé par Stéphane de Moustier pour évoquer cette histoire-là. Mais moi, je dirais qu'il y a aussi des codes du western. Pour raconter cette histoire qui se passe dans cette prison un peu singulière, parce qu'on y retrouve notamment la thématique de la frontière, la frontière déjà ténue entre ce qui est légal et ce qui n'est pas légal, ce qui est permis, ce qui n'est pas permis, et le film repose effectivement sur ce basculement d'une vie, hein, pour ce personnage de Mélissa, incarné par Asia Erzi, qui est inspiré d'un personnage existant. La frontière, c'est aussi la prison, entre la prison et la société, entre les Corses et les continentaux. Voilà, il y a plein de frontières dans le film. Et cette idée de limite, de frontière, c'est aussi la croyance. Est-ce qu'on peut croire à une histoire comme ça, à cette trajectoire, à ce destin? C'est aussi une question qu'on peut se poser. Et puis, la frontière entre cet univers décrit de la prison, des voyous, et celle des enquêteurs, des commissaires. Parce que le film est construit vraiment avec deux temporalités qui sont parallèles, hein, puisqu'on a l'itinéraire, la trajectoire d'Asia Erzi, et puis l'enquête qui est menée par Michel Faux, Pablo Poli, des commissaires. Donc on les voit même s'enliser, enquêter de manière un peu, enfin, très très lente, ne pas comprendre ce qui se passe derrière ces écrans qu'ils regardent, puisque c'est vraiment, l'enquête se fait dans un lieu clos, vraiment dans le commissariat, et on voit pas très bien finalement, avec ces deux trajectoires, où il veut véritablement en venir, jusqu'à ce qu'il se passe quand même des choses qui nous donnent des indices sur ces deux narrations-là, sur le fait que ce soit entremêlé, et notamment cette scène au centre, qui est assez passionnante, où les deux personnages, enfin les deux temporalités, vont finir par se croiser autour d'un bar tabac, avec toujours, en tout cas dans ce film, le sens du détail, et notamment l'utilisation de la cigarette, hein, parce que la cigarette que veut fumer le personnage de Michel Faux, qui est un gros fumeur, et en même temps les cigarettes que va chercher Asia Erzi dans ce bar tabac, qui font qu'à un moment donné ils se croisent sans se connaître, et c'est, voilà, c'est assez, assez intéressant cette scène. Benoît,
Bah oui, magnifique film. Alors déjà, donc il y a le personnage Mélissa et la comédienne Asia Erzi qui ne cesse de me surprendre. Hein. On l'avait découverte, révélée avec La graine émulée d'Abdelatif Kichiche, puis l'année dernière Le ravissement, où elle avait, à mon avis, franchi vraiment un cap de jeu. Et là, je trouve que elle a jamais été aussi loin dans les ambiguïtés, dans le trouble. Un personnage double, hein, qui est à la fois tout le temps dynamique, tout le temps dans le positif, et en même temps une pointe de mélancolie un peu abattu. Un film qui est aussi entre plusieurs lieux. Il y a le lieu du foyer, le lieu privé et le couple qu'elle forme avec un homme. Et il y a de l'autre côté la prison, autre lieu fermé. En fait, il y a une mise en parallèle entre le foyer qui est aussi quelque chose de fermé et puis la prison. Et sans transition, on passe de l'un à l'autre. Donc il y a différents lieux, différentes temporalités, sans vraiment savoir si elles se jouent en même temps dans d'autres sphères. Enfin, donc sans divulgacher le film, mais il y a plusieurs. Le montage et le récit dans sa construction est très vertigineuse, puisqu'on ne comprend pas tout au départ, donc il y a un côté puzzle, et on va au fur et à mesure reconstituer les pièces du puzzle. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est comment le banditisme est traité de manière bienveillante. Donc c'est au départ très positif, la prison est ouverte, on a l'impression d'être au Club Med, il y a la surveillante qui va rendre des services aux prisonniers, et donc au début on a l'impression que tout va bien, et on va se rendre compte que ce qu'on pensait qui va bien va finalement être un piège tendu et un engrenage qui va se refermer sur le personnage. Donc il y a un thriller qui va advenir progressivement.
Oui, effectivement, un thriller tout à fait efficace et très réussi. C'est vrai que Stéphane de Moustier, on l'avait découvert avec un excellent film de procès qui nous avait un peu époustouflé. Enfin, je ne sais pas si vous avez ressenti ça de la même manière que moi. C'était La fille au bracelet, il y a quelques années maintenant, déjà, 2-3 ans, je dirais. Et il revient effectivement avec un film qui, peut-être pas aussi impressionnant que La fille au bracelet, mais qui reste tout de même un thriller d'une remarquable justesse d'écriture et de mise en scène, interprété par une actrice, comme tu l'as dit Benoît, vraiment formidable. Afsia Herzi est incroyable dans ce rôle, et tout est bien écrit aussi autour du personnage, ne serait-ce que le couple qu'elle forme avec son mari, leur dynamique, lui qui a un grand costaud, etc., mais qui finalement, on se rend compte que c'est elle un peu qui décide de tout, elle se laisse pas du tout marcher sur les pieds. Il y a 2-3 répliques comme ça assez violente et assez drôle aussi. Ça nous raconte aussi des choses sur la mafia vraiment passionnantes, c'est-à-dire comment ça marche aussi concrètement. À nouveau, je reviens à cette idée de concret, mais ça, c'est toujours passionnant de voir ça dans le cinéma, quand on découvre comme ça des mondes. Bah ok, on rend un service, on se rend pas compte, et puis de service en service, bah on est redevable. Alors ça a l'air des petites choses, mais effectivement, on participe, comme vous le dites, d'un engrenage beaucoup plus grand, dont nous-mêmes, en tant que spectateurs, on ne connaît pas du tout toute l'envergure, mais on sait qu'elle est forcément dangereuse et qu'elle va plus loin que ce petit service qu'il s'agit de chercher de petites informations dans un document. Super casting également, Afsia Herzi, oui, mais aussi Michel Faux, je le trouve super dans ce rôle de commissaire de police, un peu grognon.
Contre-emploi
complètement, ça fait du bien de voir Michel Faux qui n'a pas un kilo de maquillage blanc sur la tête, je trouve c'est assez agréable et ça lui va assez bien finalement. Et puis il y a des choses très très réalistes qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans du cinéma de thriller. Je pense à l'utilisation des caméras de surveillance par exemple, un gros truc du cinéma américain où on nous dit vas-y zoom sur la caméra de surveillance, on va pouvoir repérer ça et on repère une chose qu'on n'avait pas remarqué avec la caméra de surveillance, cette fameuse vidéo que vous avez peut-être vue qui s'appelle Enhance That, qui fait un mélange de tous ces films américains dans lequel on a une scène où un personnage dit Enhance That sur un extrait, c'est-à-dire augmente la qualité, comme si on pouvait à partir de quelque chose très pixelisé, hop, augmenter la qualité et voir des choses invisibles. Bah, là on se rend compte que les caméras sont un peu pourries, on voit pas grand-chose, on essaye de zoomer mais c'est difficile, c'est ça la réalité aussi malheureusement, c'est que la technologie n'est pas non plus extraordinaire et les choses restent très banales. Mais vraiment, effectivement, un film passionnant.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Passionnant, et puis c'est vrai que tu évoques le côté l'épure, quoi, le côté le réel, en fait, qu'on prend vraiment en pleine face, sans effet, pas trop d'effet, à côté presque bressonien, en fait, ce que Philippe Sard, que j'avais pu échanger avec lui récemment, il me parle de cette référence de Bresson, parce que Philippe Sard, le compositeur du film, a aussi mis en musique Lancelot du Lac de Bresson, et on a ce côté bressonien, une mécanique, et Afsia Herzi, par exemple, elle ne joue pas l'actrice qui incarne une gardienne, on a l'impression qu'elle est gardienne, donc il y a cette idée de réel qui est très très forte, et je trouve que c'est un grand film d'étude psychologique sur la fidélité et la trahison. C'est-à-dire que ce qui se passe dans le foyer, ce jeu de fidélité et de trahison avec le couple, se joue aussi entre la gardienne et les prisonniers. Et donc il y a des ressorts comme ça le fil psychologique qui se joue sur en qui on est redevable, tu le disais, c'est très très fort, très fin.
Ouais, et puis de manière de transcender le réel pour aller vers le romanesque aussi, de partir du réel pour vraiment aller vers quelque chose de plus romanesque et plus lyrique.
Et un souffle romanesque.
Et la musique de Philippe Sard aide beaucoup à ça. Mm. Donc, du coup, on peut retrouver une interview aussi de Philippe Sard sur Cinésique.
Cinésique.fr, exactement. Ouais. Une interview de Philippe Sard qui parle de cette collaboration.
Voilà, et puis toujours en podcast sur Allegre FM, l'interview de Stéphane de Moustier.
De Laroy, composé à la fois par Delphine Malocena, compositrice qui a été nommée au César en février dernier pour Chien de la Casse. Delphine Malocena a pris en charge tout l'aspect sentimental et émotionnel du film, tandis qu'il y a un duo, Rim Lorenz et Clément Pfeiffer, qui ont pris en charge le côté folk et rock de la BO pour ce film criminel.
Quand Ray découvre que sa femme le trompe, il décide de mettre fin à ses jours. Il se gare sur le parking d'un motel. Mais au moment de passer à l'acte, un inconnu fait irruption dans sa voiture, pensant avoir affaire au tueur qu'il a engagé. Je sais pas pourquoi j'avais envie de dire ce synopsis avec une voix de cow-boy, un peu comme respire l'âme de ce film, Laroi. Alors, qu'est-ce qu'on en a pensé?
Un film de Chain Atkinson, je sais pas si on a dit son
nom. Tout à fait, Chain Atkinson.
Qui mêle violence et burlesque. Hein. Alors évidemment, on pense tous aux frères Cohen. Moi, dans le film, au bout d'une heure, je me disais, bon, ça tourne en rond, on se retrouve, voilà, on a compris que c'était les frères Cohen. Donc je me dis, bon, j'espère que ce n'est pas ça jusqu'au bout. Et donc il y a ce folklore américain, cet alliage violence et burlesque. Et je trouve que le film m'a pris par surprise après, dans la deuxième partie, dans une version beaucoup plus sentimentale. Et j'ai trouvé qu'après, le film était très très beau sur des amours déçus, des humiliations, des amitiés menant au sacrifice. Donc toute la partie sentimentale, des personnages en détresse. Et donc finalement, la peinture loufoque est devenue une peinture émouvante, de sincérité. Les incongruités deviennent une profondeur existentielle. Par exemple, le mari timide, qui est très touchant, et en même temps participe au comique, parce qu'il essaie de tout faire pour devenir héroïque aux yeux de sa femme, alors que finalement, c'est un loser. Et donc, on retrouve aussi le côté loser des personnages des frères Cohen, avec des situations burlesques, hein, des personnages ridicules. Donc moi, ce que j'aimais, voilà, c'est d'être pris par surprise dans ce versant sentimental de ce film.
Oui, enfin, moi j'ai plutôt pris du plaisir à voir le film, mais après, je trouve que c'est un film qui montre finalement la faiblesse du cinéma américain actuel, parce que ce film a été triplement primé à Deauville, et il n'est pas hyper original. Il fait beaucoup penser au cinéma des frères Cohen, avec le même humour à froid, le même type de mise en scène laconique, mais en même temps peut-être en plus illustratif, en plus appliqué aussi. Et voilà, c'est pas déplaisant à regarder, mais c'est pas non plus. Ça casse pas trois pattes à un canard, comme on dit. Et bah, voilà, après, effectivement, je peux adhérer à tout ce que tu dis. Notamment, bah, moi, ce que j'aime bien, à la limite, c'est l'aspect buddy movie du film. C'est l'histoire d'amitié, comme ça, entre les deux personnages principaux, qui à mon avis, oui, qui est intéressante, qui est jolie, etc.
Je trouve que l'apport à l'argent est intéressant, parce qu'à un moment donné, ouais. on se rend compte que c'est pas l'argent qui l'intéresse.
Non mais en soi c'est pas, on prend du plaisir à le voir et c'est ouais. Et voilà, c'est ça peut être assez chouette, mais c'est pas non plus c'est vite oublié quand même.
Oui, tout à fait. Alors tu parles de la faiblesse du cinéma américain contemporain, mais je suis pas tout à fait d'accord, parce qu'il y a des très bons films indépendants américains qui sortent un peu de nulle part, comme The Sweetest par exemple, de Sean Price Williams, qui est à mon sens un des grands films américains contemporains et qui propose des choses formelles et scénaristiques d'une grande audace. Là, on n'est pas du tout là-dedans, c'est sûr. Et puis, en même temps, c'est une coproduction franco-américaine. Donc, c'est aussi, est-ce que c'est vraiment un film américain? On peut poser la question de multiples manières. Je pensais plutôt à la faiblesse de la sélection de Deauville, que ça raconte, que la faiblesse de la cinématographie en général. Mais oui, c'est un film qui est très sympa, effectivement, qui a un côté un peu suranné, mais dans le bon sens du terme, un peu vintage, on dirait un petit film des frères Cohen, comme ils en faisaient dans les années 2000, début des années 2000, fin des années 90. C'est marrant, ça se bien regardé, c'est bien interprété, c'est plutôt bien fait, il y a une musique assez sympa, mais ça reste effectivement très anecdotique. Donc bon, moi, si vous voulez passer un bon moment, oui, c'est sûr, il y a pire au cinéma, largement, mais c'est pas forcément plus un grand film. Après, à comparer avec le film du frère Cohen, je crois que c'est Joel Cohen qui a fait le film tout seul, je confonds toujours les deux, qui s'appelle Drive Away.
C'est Ethan Cohen.
C'est Ethan, ouais, voilà. C'est Ethan Cohen, donc Drive Away Dolls, qui est sorti en salle quasiment en même temps, qui est quand même un peu plus raté, mais qui est plus audacieux, donc voilà. Soit on a un film réussi, mais très sage et très peu audacieux. Soit on a un film assez audacieux, mais raté. Donc, à vous de faire votre choix, ce que vous cherchez au cinéma. Mais deux versions des frères Cohen, un peu différentes, à deux époques différentes aussi.
Il y a un film où il y a l'ADN d'un Cohen, mais on retrouve quelque chose de très, très désincarné, je trouve, et superficiel. Là où il n'y a pas de Cohen dans l'ADN, et je trouve qu'on retrouve beaucoup plus une profondeur humaine. Donc voilà, je suis le seul un peu à le sauver, ce film. Mais, voilà.
Oui, non, mais c'est pas un mauvais film. Hein. Voilà.
C'est la fin de cette émission. Je remercie une fois de plus l'équipe technique, Alexandre Valbrook, Daria Nopitana, Enrico Mastrogiovanni. Et puis, on se quitte avec une chanson, comme d'habitude.
Chanson pop d'un film musical, un biopic musical consacré à Amy Winehouse. Peut-être sur Back to Black, hein, ce titre.
Tout à fait. Tu veux que je chante, c'est ça? Tu me regardes là. Tu me. Non, j'ai rien de particulier à dire sur ce film.
Tu es l'imitateur de ce plateau.
Voilà, l'imitateur. je vais pas me risquer à imiter Amy Winehouse. Je vais préférer l'entendre. Ce sera mieux.
Merci de nous avoir suivis. À bientôt.
Merci. À bientôt.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.